cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard, le 6 avril 95.
C'est pour mieux comprendre l'être, comment l'être en acte. Profond entre l'être et le mouvement. Vous voyez que ce lien ne peut se faire que par la finalité et non pas du tout par le point de vue de la substance. Si vous prenez par le point de vue de la substance, le devenir est un accident. S'oppose pas dialectique. le devenir ne contient pas l'être. Donc il n'y a pas d'opposition dialectique, il y a un désir. Quel est le lien qui existe entre le devenir et l'être ? C'est l'être en acte. L'être ou sia n'est pas le devenir. Oui. Vous ne pouvez pas dire que le devenir, c'est l'être substantiel. Vous pouvez dire que le devenir est l'être en acte. Et il est, par le point de vue de la finalité, c'est ça qui est extrêmement curieux. Par le point de vue de la finalité, il y a un contact réel entre le devenir et l'être. Vous voyez, toute philosophie qui atteint la finalité ne peut plus être une philosophie dialectique d'opposition. C'est la finalité qui fait l'unité. Et qui fait l'unité entre le devenir et l'être. En respectant la diversité de l'être et du devenir. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Mais c'est amusant. Parce que ça vous oblige de réfléchir. Allez, Heidegger dirait: cela fait penser. Ça nous oblige à penser. Bon, alors, continuons. Après le petit apéritif métaphysique. Continuons, essayons de comprendre comment le devenir, pour bien le comprendre, je le regarde dans ce qu'il a de fondamental. Voyez, regardez le lien entre le devenir et l'être, par l'être en acte. C'est le point de vue de la fin, puisque l'être en acte, c'est la fin. Maintenant, je vais regarder le devenir du côté fondamental. Quel est le devenir le plus fondamental ? C'est le devenir des éléments. Le devenir des éléments est quelque chose de tout à fait fondamental. Alors, les éléments, c'est la terre, l'eau, l'air et le feu. Empédocle, les racines de notre univers. Alors, comment Aristote touche-t-il les éléments ? Parce que vous n'avez jamais un élément à l'état pur, c'est sûr. C'est l'intelligence qui induit les éléments. Vous les touchez par les propriétés, mais l'élément comme tel, vous le touchez par l'intelligence. Livre, comme si le but du philosophe était d'écrire un livre. élémentaire. Oui, nous, on voit tout de suite la terre. Hein, la terre, vous avez pris ce matin un petit pot de terre. Voilà la terre. Mais non, c'est pas ça, la terre. Philosophiquement parlant, c'est un élément. L'eau, oui, l'eau, c'est peut-être un peu plus facile. Mais c'est pas ça non plus. Ça, c'est le comment de l'eau. Mais l'élément. Alors, comment Aristote aboutit-il à préciser ces quatre éléments et la quintessence, le cinquième élément, hein, puisque la quintessence est le cinquième élément. Deux manières d'aboutir par le mouvement, la constatation du mouvement. Il y a un mouvement qui monte et un mouvement qui descend. Il y a l'aller-retour. Et l'univers, c'est un aller-retour constant. Le flux et le reflux. Comment se fait-il que ça monte, le feu? Comment se fait-il que ça descend, la terre? Alors, on donnera des explications scientifiques, mais Aristote cherche au plan philosophique. C'est-à-dire l'expérience immédiate que j'ai du mouvement. Je vois le mouvement, je le sens, je l'entends, ça monte, ça descend. Et puis il y avait un troisième mouvement, le mouvement circulaire. Le mouvement circulaire qui relevait, lui, de la quintessence. Puisque c'était ni montée, ni descente. Et c'était un mouvement parfait. Alors, il posait la quintessence pour expliquer ce mouvement parfait. Vous voyez, c'est à partir de l'expérience qualitative. Et puis l'autre, puisque le mouvement, c'est insensible propre. C'est, je veux dire, puisque le mouvement est insensible commun, il ne me donne pas le caractère tout à fait propre de l'élément. Alors, il prend le chaud, l'humide. Le chaud, le froid, le sec et l'humide. Et à partir du chaud et du froid, et du sec et de l'humide, il infère une inférence, une induction. Il infère les quatre éléments. Mais c'est cela qui est pour lui la constitution du devenir de l'univers. Le devenir de l'univers se ramène aux quatre éléments. Or, parmi les quatre éléments qui sont toujours en mouvement, il y en a un qui est premier, qui est le feu. C'est l'élément le plus actuel. Vous voyez, le feu, où se trouve le mouvement le plus parfait? C'est le mouvement vers le haut. Avec le mouvement vers le bas, donc vers le centre, la gravité. Tandis que le mouvement le plus parfait, il s'échappe de notre univers. Tout en étant dans notre univers, il ne s'échappe pas, mais il monte. Et le feu est source de la lumière. Et on rejoint ce qu'on essayait de comprendre, le lien entre lumière et mouvement. Et comment, d'une certaine manière, la lumière est au-delà du mouvement, tout en étant le mouvement. C'est le mouvement le plus parfait. C'est le mouvement. Alors, ce n'est plus le cercle. Mais, et c'est là où on ne peut plus suivre Aristote. Je ne crois pas qu'existe la quintessence. Et la science moderne montre que ça n'existe pas, la quintessence. Mais la lumière suffit à expliquer l'unité de l'univers. Et expliquer comment, de fait, le monde physique est en acte par la lumière. C'est la lumière qui actue d'une manière ultime sombre tout le temps Saint Thomas, à la suite d'Aristote. C'est un mouvement qui échappe à notre constatation immédiate. Il est au-delà, mais il est tout le temps. Cependant, il fait partie de notre univers. Et donc, il est lui-même en mouvement. Mais il actue tous les mouvements. Tous les mouvements sont actués par le feu, dont la propriété est la lumière. La manifestation du feu, c'est la lumière. La propriété du feu, c'est la lumière. Alors, vous touchez là, de la manière la plus immédiate, que ce qui est mu est entelekeia, et l'être en acte. Ce qui est mu est l'être en acte, et être en acte. Le feu, la lumière. Alors pour nous, pour notre intelligence liée au sens, il y a ceci très particulier pour la lumière comme pour le feu. C'est que c'est ce que nous connaissons en premier lieu. Et en même temps, ce qui est le plus parfait, ce que nous connaissons en premier lieu par la vue. La vue est liée à la lumière. Et la vue fait donc connaître le mouvement le plus parfait. Et me fait toucher ce qu'il y a de plus acte dans notre monde physique. Et comme, de fait, ce mouvement échappe à la constatation immédiate, d'une certaine manière, il est l'au-delà ou mesure de tous les autres mouvements. C'est pour ça qu'il est leur acte, comme mesure, comme cause exemplaire. Et donc comme mesure. Je touche donc là la cinquième modalité de l'être en acte, qui est importante parce qu'il me montre la continuité du mouvement et de l'être par le point de vue de la finalité, et qui m'empêche concevoir dialectiquement l'opposition entre être et devenir. Vous voyez, c'est par le mouvement que je vois cette continuité. Et donc par le feu et la lumière, d'une façon ultime. Après avoir relevé modalité de l'être en acte, je reviens à l'être en acte, ce qui est normal, hein, puisque c'est une connaissance analogique. Je passe toujours de ce qui est premier à ce qui est second, et je reviens du second vers le premier. Vous voyez, autrement dit, les cinq modalités de l'être en acte, laissez le vrai, le bien, l'opération vitale, le mouvement. Ces cinq modalités me permettent de mieux connaître la ratio actus. L'être en acte dans toute sa pureté. La ratio actus se trouve présente dans ces cinq modalités et exprime bien ce qu'il y a d'ultime dans l'être. Alors, au plan philosophique, au plan métaphysique, j'essaie de comprendre l'ordre qui existe entre l'être en acte et l'être en puissance. Et après avoir vu l'induction et saisi l'être en acte, je vois les cinq modalités pour mieux comprendre ce que c'est que l'être en acte. Après avoir pas vu les seules modalités, je reviens à l'être en acte. Et j'essaie de comprendre maintenant quel est l'ordre qui existe entre l'être en acte et l'être en puissance. Quel est l'ordre qui existe entre les deux ? Je peux tout de suite dire ceci.
Je n'ai qu'une connaissance imparfaite de la puissance.
ses premières. Et la puissance ne détermine pas, mais conditionne. J'ai donc là la source de tout conditionnement. C'est l'être en puissance. L'être en puissance conditionne ma connaissance et ne la détermine pas. Qu'est-ce qui détermine ma connaissance? C'est l'être en acte. C'est la fin. Donc il faut d'abord bien comprendre cela. C'est important parce que, voyez, par là, Aristote montre que le devenir est intégré dans la philosophie. Que le conditionnement est intégré dans la philosophie. Et donc que la psychologie n'est pas en dehors de la philosophie. Elle doit être intégrée dans la philosophie. Mais la psychologie n'aime pas, parce qu'elle perd son indépendance. Et elle accepte d'être... Elle aime mieux rester imparfaite que de dépendre de la finalité. Oui. C'est que là, il y a un problème extrêmement intéressant à voir au plan philosophique, parce que ça a d'immenses conséquences. Oui. La psychologie voudrait avoir son indépendance, être une science. Oui. C'était quelque chose qui m'avait beaucoup frappé quand on avait eu cette semaine de psychologie carrément. Bon, on voyait très bien qu'on commence toujours par le corps, le conditionnement substantiel de l'homme.
L'être en puissance est premier, c'est-à-dire
dire que c'est l'être en puissance qui conditionne tout devenir. C'est à partir de l'être en puissance que je découle le devenir. Le devenir, l'être en mouvement, naît, apparaît à partir de l'être en puissance. Vous avez l'exemple très simple du sculpteur. C'est une simplicité, là vous le voyez tout de suite. Regardez la manière dont le sculpteur sculpte. C'est d'être toujours là qui me montre le mieux ce que c'est que le travail. Puisqu'il le formalise. Donc c'est toujours à partir de là que je découvre l'aspect génétique. Le travail, c'est l'homme qui prend possession de l'aspect génétique. En travaillant, vous prenez possession de l'aspect génétique. Vous ne pouvez travailler qu'à partir d'une matière. Parce que vous n'êtes pas créateur. Donc vous travaillez toujours à partir d'un être en puissance. La matière. Vous savez qu'en grec, la matière oulée, c'est le bois. Donc on voit très bien, je reste proche de l'art du charpentier. Le charpentier travaille sur le bois. Et il travaille sur un bois en puissance. Et quand il a terminé son travail, le bois est en acte. Il y a une chaise, il y a une table. Ça, c'est du bois en acte. Tandis que quand il y avait la planche, c'était en puissance pour travailler. Oui. Le sculpteur part du bloc de pierre pour faire sa statue. Il travaille la pierre en puissance et à partir de là, il éduit, il fait sortir la forme. Ça doit sortir de la matière, la forme. Et c'est le propre de la sculpture. Vous voyez, c'est juste l'inverse du moulage. Vous appliquez la forme dessus. Et ça se voit tout de suite. Une statue qui est moulée et une statue qui est sculptée. Parce que le moulage vient de l'extérieur. Qu'aux exemplaires. Qui transforme tout de l'extérieur. Le sculpteur éduit la forme de la matière. Ça, c'est le vrai devenir. Il y a deux espèces d'éducation. Le moulage et la véritable éducation. L'autorité qui l'impose, alors elle veut mouler l'enfant. C'est plus l'éducation. Où on doit respecter l'ordre génétique. On part de la puissance vers l'acte. Donc gardez cet exemple, c'est très simple. Et ça fait tout de suite comprendre l'ordre de l'être en acte et de l'être en puissance. Le moulage, on applique l'être en acte sur la matière. De l'extérieur. Alors pour que ça puisse se faire, il faut rendre la matière malléable. Il faut qu'elle soit le verre fondu. Il faut le mouler. Tout ce que vous moulez, il faut que ce soit fondu. C'est-à-dire que vous permettez à un être qui a une certaine structure de perdre sa structure pour en prendre une autre. Vous le moulez, n'est-ce pas? Alors, on dit la vie religieuse fait mouler les gens. Hein, c'est tout à fait faux. Il n'y a pas de moule. Il n'y a qu'une éducation, celle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va contre tous les moulages. Et fait que de l'intérieur, il fait sortir l'acte. C'est ça le propre des dons du Saint-Esprit. C'est coopérer avec l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint fasse sortir d'un être matériel un saint. Qui est un être matériel. Le saint est être final, c'est la finalité. Mais il part de la matière. On est saint jusqu'à son corps. La sainteté n'est pas uniquement dans mon intelligence, les intentions. Le sauvage, la brute, pas d'importance. il restera jusqu'à la fin de sa vie comme ça. Non. C'est ça qui est très curieux. Alors voyez, tout dépend de la compréhension que vous faites de l'être en acte et l'être en puissance. Vous savez, c'est un moment très important, après ce très grand effort, de saisir l'être en acte et l'être en puissance. On s'arrête et on réfléchit. Quel est l'ordre? Ah tiens, il y a un ordre double. Il y a un ordre double. C'est pour ça qu'on a deux yeux. Il y a un ordre double. Oui, celui qui n'a plus qu'un œil n'a plus de relief. Celui qui n'accepte qu'un seul ordre n'a plus de relief. Et il fait de grosses bêtises. Il y a deux ordres à l'intérieur de l'être. Il y a à l'intérieur de cette distinction d'être en acte et d'être en puissance. Il y a un ordre génétique. La puissance passe devant. Et l'ordre de perfection, l'acte est premier. Donc ça, réfléchissez beaucoup là-dessus. C'est ce qui fonde ce qu'Aristote prend comme méthode philosophique, toujours de regarder l'ordre génétique et de regarder l'ordre de perfection. Vous ne pouvez jamais abandonner l'ordre génétique. Vous ne pouvez jamais abandonner l'ordre de perfection. Il faut les deux. Dans l'ordre génétique, vous voyez, vous faites une topique historique. Comment, de fait, cette question a été traitée? Alors, vous faites une petite topique historique, l'ordre génétique. Vous voyez comment, progressivement, le sein a poussé. Comment, de fait, génétiquement, il est devenu un sein. Faites l'histoire d'un sein. L'ordre génétique. Puis après, vous regardez l'ordre de perfection. Parce que l'ordre génétique ne suffit jamais. Il ne vous donnerait qu'un aspect matériel. Pas plus. Mais c'est très important. Et pour nous, c'est quelque chose de capital. Parce que c'est beaucoup plus proche de nos sens. Tout le monde peut saisir l'ordre génétique. Tout le monde. Parce que c'est descriptif. Tandis que l'ordre de perfection, ah, c'est autre chose. Il faut connaître la fin. Et dans la lumière de la finalité de l'être en acte, je regarde. Alors, l'ordre génétique est univoque. L'ordre de perfection est analogique. Puisque nous sommes dans le devenir et que la matière joue un rôle capital dans l'ordre génétique, la potentialité et tout ce qu'il y a d'univoque dans notre pensée provient de la potentialité, provient de la matière. Tandis qu'au contraire, l'ordre de perfection exige un certain aspect analogique. Alors, l'ordre de perfection implique le point de vue de l'intelligibilité. Je connais l'être en puissance par l'être en acte. Si je veux vraiment le connaître, si je veux seulement le décrire, l'ordre génétique suffit. Mais si je veux connaître de l'intérieur, il faut connaître la finalité. Pour les actions humaines, c'est très simple. C'est tout le temps comme ça. Je ne connais vraiment quelqu'un que quand je connais sa finalité. Tant que je ne connais que son devenir, c'est très bien, mais ça ne me donne pas la vraie signification. Le devenir conditionne, mais ne détermine pas. C'est pour ça qu'il peut y avoir des conversions. Autrement, il n'y aurait jamais de conversion. La conversion se fait par la finalité. Subitement, ah, il y a une lumière. Je dois entrer à Saint-Jouda. Ça ne s'explique pas génétiquement. C'est pour ça que si je prends l'ordre génétique, on dira tout le temps, oh, attendez, attendez. attendez. Si je garde l'ordre de merveilleux, mais vous êtes décidé, mais entrez tout de suite. Oui. Il y en a qui étaient la hâte de Marie. La hâte de Marie, c'est la finalité. L'escargot, c'est l'ordre génétique. Il laisse une trace derrière. La terre génétique. Et je vois très bien. Et alors, il faut les deux, ça je suis tout à fait d'accord. Et c'est la rencontre des deux qui me permet de décider. Quand j'ai assumé mon conditionnement suffisamment pour entrer. Mais mon conditionnement demeure. Je ne le supprime pas. Le devenir existe. Et il existe le devenir. Donc je dois le connaître pour ne pas faire que mon conditionnement me détermine. Mon conditionnement ne me détermine pas dès que j'ai découvert la finalité. Il faut avoir découvert la finalité. Celui qui n'a pas découvert la finalité, il est déterminé par son conditionnement. Et tout dans sa vie s'explique par son conditionnement. Tandis que celui qui a découvert la finalité dit non, non. Il y a un dépassement. Et ce dépassement se fait sans conditionnement. C'est ça qui est le mieux. Parce que la lumière vient d'en haut. C'est la finalité. Alors vous voyez, le moment précis, au point de vue philosophique, où j'explique les rapports du conditionnement et de la finalité, c'est ayant saisi l'être en acte et l'être en puissance, je regarde l'ordre qui existe entre les deux. Donc selon l'ordre de perfection, l'être en acte me donne la signification d'être en puissance. L'être en puissance est un être qui gémit. Tant qu'il gémit, ça va. L'être en puissance, quand il est coupé de sa finalité, murmure. Il se replie sur lui. Le murmure vient du conditionnement. Faites votre acte de conscience métaphysique. Vous verrez que tous vos murmures viennent de vos conditionnements. Alors une fois qu'on a compris ça, on crache les murmures. Ça n'en peut plus. La finalité. Oui. Les tentations viennent tout le temps du conditionnement. Le démon connaît notre conditionnement. Enfin, c'est le psychologue parfait, le démon. C'est pour ça que de temps en temps, l'écoute, hein, dites-moi un peu. Mais le démon est suffisamment intelligent pour ne jamais conceptualiser le devenir. Parce qu'il ne pourrait pas. Il serait obligé de reconnaître qu'il est orgueilleux. Or, il est sincère dans son orgueil. Il est fidèle dans son orgueil. C'est terrible. C'est une fausse fidélité. C'est une fausse sincérité. Et il est dans son orgueil. Or, formaliser, conceptualiser le conditionnement, ça ne peut se faire que par la finalité. Ou par la cause matérielle. Mais le démon est suffisamment intelligent pour ne pas être un positiviste. Il ricane en face du positivisme. Il dit, voyez, c'est leur corps qui domine et leur âme est enfouie dans leur corps. C'est ça le positivisme. Si je le saisis dans la lumière d'être en acte, d'être en puissance. Alors, la priorité de l'acte, c'est au niveau de l'intelligibilité. Je ne connais parfaitement l'être en puissance que par l'acte. Je ne connais parfaitement mon comportement que par ma finalité. Et deuxièmement, au point de vue existence, l'être en acte est premier. Donc il a deux priorités. Les deux priorités de la finalité et de la substance. Puisque n'existe qu'un être substantiel. Michel. Parfaitement. En priorité. Bien, l'être substantiel est actué par l'essai. Et tous les accidents n'existent qu'en fonction de la substance. Et le devenir n'existe qu'en fonction de la substance. Ça aussi, ça va très loin. Et je peux le dire dans la vision de l'être en acte. Mais je respecte cette zone du devenir, de l'ordre génétique, où la puissance est première. Alors, essayez de découvrir ça, parce que c'est extrêmement important, ça nous délivre du positivisme, et donc du marxisme, a fortiori. Ça nous délivre de toutes les philosophies qui mettent le primat du côté de la potentialité. Dans toutes les philosophies qui n'acceptent que le devenir. L'évolution n'accepte que le devenir. Parce que tout devient, tout évolue. Non, tout n'évolue pas. La finalité n'évolue pas. Moi, j'évolue. Et la finalité n'existe. Mon exister n'évolue pas. Mon être en acte du côté de mon exister n'évolue pas. Mais le primat de l'être en acte, c'est très très fort saisir ça. Et c'est très très important de le saisir. Parce que c'est vraiment du côté de l'être où je saisis quelque chose d'ultime. Fondamental par la substance. Parce que la substance est tout entière ordonnée à l'exister. Plus qu'ordonnée, elle est identifiée à l'exister. Elle s'identifie. Mon âme et mon exister, ça ne fait qu'un. Mon exister vient de mon âme. Vous voyez, alors là, c'est l'être en acte de la substance, l'exister. Le premier. Parce que celui-là, il est substantiel. Et donc là, je rejoins l'aspect de la finalité et l'aspect fondamental de la substance. Et le devenir est entre les deux. Toujours. Pourquoi y a-t-il un devenir ? C'est parce que ma finalité humaine n'est pas ma forme. C'est la distance qui existe entre la forme et la fin. Et c'est la distance qui existe entre la matière et la forme. Il y a deux devenirs qu'il faut bien comprendre et distinguer. Le devenir de la matière vers la forme, c'est le devenir du travail. Je taille la pierre, je la fais suer, pour que de la pierre, de la potentialité, sorte la forme. Il faut voir le travail du sculpteur, avec un regard philosophique. C'est merveilleux. Alors si vous êtes chrétien, voyez l'Esprit Saint. Il burine l'Esprit Saint. Pas que la paille de fer. Parce que certaines formes de sainteté ne peuvent apparaître qu'à travers la potentialité. T'as expliqué d'autres choses dans la vie. Quand on se casse la tête plusieurs fois. Parce que c'est une matière coriace, vous avez le corps. C'est la chair et le sang, oui, mais avant d'être la chair et le sang, c'est la pierre. Le cœur de pierre qui doit devenir un cœur de chair. Alors le passage du cœur de pierre au cœur de chair, ça demande du travail. Et puis il y a la différence entre la capacité d'opérer, la qualité et la fin. Donc il y a deux devenirs. devenir qui s'appuie sur la potentialité de la matière et un devenir qui s'appuie sur la potentialité de la vie, de l'être vivant, qui a des capacités merveilleuses de développement. Après avoir regardé l'ordre qui existe entre l'être en acte et l'être en puissance, je peux immédiatement saisir le principe de finalité. Comme principe, je saisis l'être en acte comme cause et je saisis son intelligibilité. Tout ce qui est en puissance est ordonné à ce qui est en acte. Qui est en puissance ordonnée à ce qui est en acte. Puisque j'ai dit que l'être en puissance n'est intelligible que par l'être en acte. Donc, c'est l'être en acte qui donne à l'être en puissance son intelligibilité, son être. Et tout ce qui est en puissance est toujours ordonné à l'autre. Ça, c'est le principe de finalité. Et alors, au niveau du devenir, tout ce qui est en devenir dépend d'un autre. C'est l'axiome. C'est plus un principe. Tout ce qui est en devenir, tout mouvement, dépend d'un autre. Vous voyez, c'est plus le principe. Pourquoi ? Parce que je pars du pos. Et non pas de l'être. D'une manière d'être. Le devenir, c'est une manière d'être. Une manière imparfaite d'être. C'est pour ça que tout ce qui est en devenir dépend d'un autre. Cet autre est ou la finalité ou la cause efficiente.
De causalité finale.